Vous êtes toujours à l'écoute du RESF hein, sur Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous écouter en streaming partout, à Avignon ou à Ouaga, pourvu d'être doté d'une connexion Internet suffisamment rapide. Cette émission sera rediffusée mardi matin de 7 à 8 et très bientôt téléchargeable sur le site rsf.info à la rubrique radio. Et on est toujours avec Karine Parot, qui va nous parler de ce bouquin, donc de ce livre publié à La Fabrique, hein, Carte blanche, l'État contre les étrangers, livre qui est vraiment superbement intéressant. Et ce que je te disais tout à l'heure hors micro, c'est que j'ai l'impression que quelque part tu fais... Je dirais pas une synthèse, c'est pas exactement le bon mot, j'ai pas trouvé le mot exact, mais des 12 ans d'émission de RESF, finalement, c'est, tu recolles tous les morceaux, ça en fait un petit peu une synthèse, et ça recolle plein de morceaux du puzzle, hein, de ce droit des étrangers, de ce qui apparaît comme un arbitraire, de ce qui apparaît comme un amas d'aberrations, sauf que dans ce bouquin, tu montres que ça n'est pas un amas d'aberrations. Ou que c'est une grosse aberration en soi, mais que toutes ces petites mesures, finalement, ça répond à des choix politiques, et c'est pas n'importe quoi, c'est cohérent.
Cohérent d'une certaine façon. J'ai voulu dans ce livre, enfin le truc qui me paraît le moins connu peut-être des auditeurs de ton émission, qui sont quand même des spécialistes du non-droit des étrangers, pourrait-on dire, c'est la toute première partie sur la nationalité, et j'ai voulu commencer par là. D'abord, d'une manière générale, moi, ce qui m'a semblé intéressant, parce que je me suis dit, bon, j'ai voulu essayer de porter tout ce qu'Ogisti, à Migre Europe, à la CIMAD, à l'ANAFE, ici, à RESF et ailleurs, on commence à connaître, enfin, en tout cas, on essaye de documenter et d'enquêter. J'ai voulu essayer de le faire sortir un peu au-delà de nos cercles habituels. Et pour ça, il m'a semblé quand même intéressant de faire un peu d'histoire, parce que décrire la réalité et les injustices et les aberrations, comme tu dis, la violence de la politique actuelle telle quelle, comme une sorte de photo instantanée, il y a un côté un peu vain, parce que finalement, on a l'impression que le réel est sans cesse plus brutal et plus féroce. Donc, pour porter quand même un jugement, mais pour essayer de réfléchir dessus, il m'a semblé intéressant de le mettre en perspective historique et donc de voir comment c'était avant. Et c'est peut-être pour ça que tu dis que ça donne une impression d'enchaîner les choses, quoi, de leur donner une certaine cohérence. Alors je sais pas si j'irai jusqu'à parler de cohérence, mais par exemple, si on prend, tout commence finalement avec l'histoire de la nationalité, avec cette question de la nationalité qui est relativement, enfin, qui est même très récente. Et celles et ceux qui se sont un peu intéressés à la nationalité savent que finalement la notion même de nationalité apparaît tardivement, à la fin du 19e siècle. La première loi qui parle de nationalité dans le droit français, elle date de 1880 et des brouettes. Donc avant, on ne parlait pas de la nationalité. On parlait de la qualité de français, on parlait des citoyens français, mais pas de la nationalité. C'est quelque chose qui est... c'est un concept, finalement, qui est apparu tardivement et qui a été sans cesse façonné par l'État pour ses besoins en soldats, pour ses besoins en main-d'œuvre, enfin, de manière complètement utilitariste, quoi.
Oui, et puis tu as donc... C'est là où je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, quand je parlais de cohérence, c'est qu'on se rend compte que c'est... Si ces politiques étaient incohérentes, elles le sont intrinsèquement, mais elles ont une cohérence interne. Je veux dire, ça se contredirait, ça s'entrechoquerait, ça. Et or là, on se rend compte que depuis qu'on décide de contrôler les étrangers, hein, donc on invente la frontière, qu'on réinvente la frontière. Les frontières existaient déjà, mais il y a une réinvention des frontières, il y a une invention des nationaux, de la nationalité, donc une invention de l'étranger, et que on est dans une dynamique, finalement, depuis une dynamique du contrôle.
Oui, tout à fait. L'invention de l'étranger, donc à peu près qui correspond, on pourrait dire, à l'invention de la nationalité française. Oui, complètement. Et là, peut-être que un des faits, pour se rapprocher un peu de la période actuelle, les plus marquants, c'est la réinvention de la frontière et les contrôles de plus en plus importants aux frontières, enfin, pour arriver sur le territoire français et sur le territoire européen. Donc la grosse césure, il me semble, c'est dans les années, disons, allez, on va faire, parce qu'il faut rester quand même. C'est difficile de situer ça à l'année près, hein, ça c'est quand même des constructions qui se font au fur et à mesure. Mais disons que, avec le rétablissement du visa au milieu des années 80, qui va de pair avec un contrôle physique plus important aux frontières, eh bien là il y a quelque chose qui s'opère, c'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à cette période, disons des années 80-90 grosso modo, les étrangers, ceux qu'on a construits comme étant des étrangers, arrivent assez facilement sur le territoire français et sur le territoire européen, et bon an mal an, ils se démerdent au bout d'un certain temps pour être régularisés. Tu vois, dans les années, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais dans les années 60, la majeure partie des personnes qui obtiennent une carte de séjour l'obtiennent par régularisation, c'est-à-dire qu'ils arrivent en tant que touristes, grosso modo, hein, parce qu'il y a quand même une réglementation de l'entrée et du séjour, mais les gens arrivent en règle ou pas, en règle comme touristes ou pas en règle, et ils trouvent du travail. Et ils vivent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans dans la clandestinité, suivant qu'ils ont une nationalité plus ou moins recherchée pour l'époque. Hein, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je veux dire, pendant longtemps, enfin, il y a des nationalités varient, fluctuent, acceptables par la haute administration, fluctuent avec le temps. Hein, ils finissent toujours par avoir une carte. Aujourd'hui, la grosse différence avec cette période des années, disons, d'après-guerre, c'est que les gens ne peuvent plus prendre l'avion ni le bateau. À l'époque, ils ne prenaient pas l'avion après-guerre, hein, ils prenaient le bateau. Les gens ne peuvent plus prendre le bateau ni franchir les frontières librement, quoi.
Et une chose qu'il faut dire, c'est que jusqu'en 1960, la France a une frontière au nord avec la Belgique et au sud encore avec la Belgique, puisque depuis la frontière belge au nord, bon, on traverse la Méditerranée, on arrive en Algérie, c'est un département français, on traverse la OEF, c'est la France, on traverse la EF, c'est la France, et on arrive au Congo belge. Donc tous les gens qu'on désigne maintenant comme des étrangers, qui sont des gens qui viennent de l'espace colonial français ou de l'espace colonial européen, n'étaient pas des étrangers jusqu'en 1960 ou 1962.
Oui, tout à fait. Et ce qui m'a aussi intéressé comme phénomène global, donc tu vois, comme bascule politique, il y a ce moment-là, hein, quand même, le moment, tu vois, du rétablissement des visas et du fait que les gens ne peuvent plus venir accéder finalement au territoire des pays européens et sont obligés de comme on le voit aujourd'hui, de risquer leur vie en mer et de voyager pendant des années pour pouvoir trouver un endroit où vivre. Il y a ça et autre chose aussi qui m'a sauté aux yeux en écrivant le livre, c'est la façon dont l'État, l'administration, en fait, se moque complètement des règles existantes quand il s'agit de maîtriser les flux migratoires, gérer les populations, ce qu'elle considère être comme les populations étrangères, et en fait, fait à sa guise, et après, on verra bien. Alors, jusque dans les. C'est pareil, hein, pendant ces années 50, 60, 70, les règles sont quand même assez floues. Mais il y a quand même des règles de base qui interdisent, par exemple, les arrestations arbitraires. Et si tu veux, ce qui se passe sur le port d'Arinque, sur le port de Marseille, dans le hangar de Arinque, hein, dans les années 60, juste après la guerre d'indépendance, jusqu'après l'indépendance de l'Algérie, les Algériens continuent de pouvoir circuler et venir librement en France en vertu d'accords conclus donc entre la France et l'Algérie, destinés surtout à préserver les droits des colons qui sont restés en Algérie. Les Algériens peuvent continuer à venir sans visa et librement en tant que touristes en France, d'accord ? Donc ils arrivent par bateau à Marseille, et comme déjà la haute administration trouve que ces Algériens arrivent de manière beaucoup trop nombreuse, et à cette époque-là, par exemple, on préfère largement les Italiens qu'avant on n'aimait pas dans les années 30, qui étaient des indésirables. Là, tout à coup, les Italiens, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont catholiques, parce que soi-disant ils s'intègrent beaucoup mieux, deviennent tout à coup désirables, hein. les Rital deviennent désirables, eh bien, ces Algériens que là, on trouve beaucoup trop nombreux, encore une fois, eh bien, on instaure sous couvert d'un contrôle sanitaire, un contrôle à la descente des bateaux sur le port de Marseille, à Arinc, dans le port, directement dans le port, enfin, d'abord un peu à côté du port, puis directement dans le port. Et si tu veux, on contrôle les gens, et ceux qu'on considère comme étant pas aptes, finalement, au travail, on les met dans un hangar, à la police... les met dans un hangar pendant un ou deux jours avant de les remettre dans le bateau suivant. Mmh. En toute illégalité, dans le milieu des années 60. Et ça dure comme ça assez longtemps, jusqu'à un scandale, le scandale donc, du hangar d'Arinc. Mais des milliers d'Algériens sont comme ça détenus complètement arbitrairement, sans aucun papier, sans rien du tout, par la police. Et bon, je la fais courte, mais l'idée, si tu veux, c'est de voir que cet enfermement arbitraire, qui est en fait l'ancêtre de la rétention administrative, quand ça a commencé à faire trop de bruit et quand la France a eu ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit évidemment strictement ce type de pratique, et que d'une manière générale, on était rentré dans l'ère d'une espèce de frénésie législative, eh bien, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur de l'époque le dit clairement, on faisait ça à l'arrache sans texte, eh bien, maintenant, il le dit parce qu'il est devenu sénateur après, il faut légaliser la pratique, il faut faire des textes pour légaliser cette pratique, qui n'avait jamais cessé d'ailleurs, parce que le scandale ayant eu lieu, le hangar n'avait pas fermé. Il s'était, la haute administration, parce que c'est elle qui est toujours aux manettes, hein, le Parlement est c'est une chambre d'enregistrement, la haute administration s'arrange avec des décrets, des arrêtés, des circulaires, des machins, pour bidouiller et continuer à enfermer arbitrairement les Algériens, et alors qu'ils ont après été rejoints par d'autres nationalités sur le port d'Arinc.
Voilà. Et donc ça, le premier encadrement, on pourrait dire, de cette rétention, bon, on avait connu des formes de rétention, notamment avec les Espagnols, avec d'autres personnes après la guerre d'Espagne, et ça remonte à la période de l'occupation. Cette rétention-là donc sera finalement légalisée, je crois, en 81.
Oui, il y a une première loi en 81 qui en 81. Alors que c'est encore la droite, si j'ose dire, au pouvoir qui légalise un peu le truc, et ça finit d'être complètement légalisé en 81 par le gouvernement socialiste qui arrive au pouvoir et qui essaye d'encadrer un peu le processus. Mais tu vois, à l'époque, au tout début, je ne vais pas dire de bêtises parce que les chiffres, je ne m'en souviens pas exactement, mais la rétention légale dure, il me semble, 48 heures. Le maximum. Et après, très rapidement, ça augmente. 48 heures, 7 jours, 10 jours, 32 jours. Avec Besson, si je ne dis pas de bêtises, dans les années donc 2000 et Brouette, ouais. On passe à 45 jours. Ouais. C'est ça, je parle un peu vaguement, sous tout contrôle.
La première, la rétention était de 6 jours. Avec Sarko, elle passe à 12 jours. Ensuite, ça va passer à 32 jours, puis à 45 jours, et ça sera pour se mettre en phase avec la circulaire qu'on appelle la circulaire de la honte, enfin, qui est le paquet européen qui est voté à Bruxelles. En
2008. Mais c'est 2008, mais c'est une directive européenne. Mais elle prescrit pas de délai minimum d'enfermement. Ce qu'elle va faire là, la directive européenne donc de 2008 qui harmonise les procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, qui oblige les États finalement à tout mettre en œuvre, pour essayer de se débarrasser des étrangers en situation irrégulière. Elle pose pas de délai minimum d'enfermement. Elle pose un délai maximum de 18 mois. Et là, il y a une réforme qui est à l'œuvre et qui voudrait imposer un délai minimum de 3 mois de rétention, ce qui est le délai actuellement en vigueur depuis quelques mois, depuis la réforme. Maintenant, on peut enfermer les étrangers pendant 3 mois en rétention pour préparer leur éloignement.
Et avec cet enfermement, en fait, ces 3 mois, alors ce qu'on dit, c'est qu'on va s'approcher... progressivement, donc passer de 6 jours à 12 jours, à 30 jours, à 45 jours, à 90 jours là où on est, pour s'aligner finalement vers la durée maximum prévu par la directive européenne de 2008, qui est de 180 jours.
Ouais, 18 mois.
18 mois, pardon.
18 mois, du vrai délire. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a comme ça à l'œuvre un changement, en tout cas, les 3 mois, soyons clairs, c'est une petite peine de prison. Il faut appeler un chat un chat. D'ailleurs, dans les centres de rétention administrative, ces derniers mois, il y a un certain nombre de luttes dont tu as dû te faire l'écho, des grèves de la faim, des tentatives de suicide aussi de plus en plus nombreuses, parce que le fait de rester 3 mois, là, pour l'instant, on n'a pas encore, d'après ce que j'entendais de la CIMAD, il n'y a pas encore de personnes qui ont fait réellement 3 mois, parce qu'il faut donc un certain nombre de prolongations par les juges en application de certaines conditions, mais ça va venir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a à la fois cet allongement de la durée de la rétention, donc à 3 mois, et aussi un autre phénomène majeur qui montre que les centres de rétention sont comme finalement des prisons, c'est la mise en rétention des demandeurs d'asile. Ça, je ne sais pas si le grand public, comme on dit, je ne sais pas qui c'est le grand public, mais en tout cas, si les gens, au-delà du cercle de ceux et celles qui s'intéressent à la question des étrangers, sont au courant du fait que maintenant, les demandeurs d'asile sont en centre de rétention. Alors, pour l'instant, ils ne peuvent pas y rester plus d'un mois et demi, mais c'est quand même incroyable de se dire que des gens qui sont qui ont fait une demande de protection internationale et donc qui ont, en principe, sont en situation régulière, sont enfermés en rétention pour être expulsés vers soi-disant un autre État européen où leur demande d'asile va être examinée. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie par une jeune femme, une jeune malienne qui était enfermée en centre de rétention avec un très jeune enfant qui refusait de se nourrir, un nourrisson de quelques mois, par la France, hein, au Ménilamlo. Je crois que c'était au Ménilamlo. Oui, c'est ça, c'était au Ménilamlo. Et donc, la rétention avait été prolongée en vue de transférer cette jeune femme en Italie. Or, en Italie, parce qu'elle avait déjà donné ses empreintes en Italie et que, d'après le règlement Dublin, c'est l'État par lequel l'étranger ou l'étrangère a pénétré le territoire européen, le premier État qui est compétent pour examiner sa demande d'asile. Bon. Donc, cette femme d'une vingtaine d'années et son jeune enfant de quelques mois ont été enfermés au Ménilamlo pour être transférés en Italie, où on sait pertinemment qu'actuellement, tout les processus, les dispositifs de soi-disant prise en charge des demandeurs d'asile sont archi-saturés et que cette femme va donc se retrouver à la rue. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a une femme qui est enfermée avec un enfant, qui va être menottée, ligotée dans un avion pour être transférée dans un autre pays où elle va être laissée à la rue. Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant. Je veux même pas parler de l'argent que ça coûte et de l'énergie que ça coûte, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est quand même sous couvert de la Convention de Genève, on met en prison des gens, quoi.
Oui, oui. Et puis, en plus, je crois que le règlement de Dublin n'est pas dans la Convention de Genève. C'est
Non, c'est autre chose. Le règlement de Dublin, c'est un texte européen, mais les États, tous les États de l'Union européenne ont ratifié la Convention de Genève, donc ils sont tenus par cette Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, mais qui n'est pas non plus... on s'en sert, nous, un peu dans notre élément rhétorique, parce que c'est un peu la dernière chose à laquelle on arrive à s'accrocher, mais il faut pas non plus, elle ne fait pas non plus rêver, cette Convention de Genève. La définition du réfugié, elle est finalement assez individualisante, hein, elle oblige chacune à prouver qu'il craint réellement des persécutions du fait d'un certain nombre de critères, sa race, sa religion, ses opinions politiques, mais elle ne prévoit rien en ce qui concerne la preuve, ce qui fait qu'il est en pratique extrêmement difficile pour les uns et les autres de prouver qu'ils ont des raisons de croire que s'ils rentrent dans leur pays, eh bien ils vont subir des persécutions terribles. Donc c'est un peu un cache-misère, finalement, cette Convention de Genève. On s'en sert, mais c'est pas non plus l'idéal. Hein.
Oui, et puis on s'en est servi à un moment... Enfin, bon, on va pas revenir à l'histoire de 1951, la guerre froide. Mais bon, encore une fois, le réfugié, finalement, est passé d'une catégorie désirable dans un sens. C'est que le réfugié, c'était finalement, essentiellement, dans les années 50, un anticommuniste qui venait de l'Union soviétique. Donc c'était légitime de l'aider et il est passé maintenant à des gens qui viennent des espaces qu'on pourrait dire ex-coloniaux ou ex-URSS, mais qui n'est plus légitime d'aider et qui sont des... Encore une fois, on est passé sur une catégorie finalement du faux réfugié.
Oui, tout à fait. Et D'ailleurs, en ce moment, en région parisienne, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire haut et fort. Il est extrêmement difficile de déposer une demande d'asile. Parce que quand tu déposes ta demande d'asile, tu passes du statut de étranger en situation irrégulière à demandeur d'asile. Et en principe, quand tu es demandeur d'asile, les États sont tenus alors, de te donner un logement et un petit pécule de quelques euros pour vivre. Hein, parce que pendant les premiers mois, tu n'as pas le droit de travailler. Donc, c'est deux statuts bien différents, en théorie. Sauf qu'en pratique, on a vu que dans les centres de rétention, on retrouvait les deux. Et d'abord, et que en pratique aussi, les étrangers qui arrivent sont empêchés de déposer leur demande d'asile par des plateformes téléphoniques saturées, payantes, hein, donc ils n'arrivent pas à prendre un rendez-vous pour déposer une demande d'asile, donc ils restent dans les nimbes de la demande d'asile, ils restent en situation irrégulière, et s'ils se font contrôler par la police, ils sont en situation irrégulière et ils finissent en centre de rétention avant même d'avoir pu espérer déposer une demande d'asile. Donc, si tu veux, moi, je trouve que là, on est arrivé, le truc est à son paroxysme. Les États, enfin, en tout cas, la France a du mal à jouer les hypocrites et à dire qu'on veut continuer à protéger les demandeurs d'asile, puisque les cartes sont complètement brouillées. On empêche les étrangers de déposer leur demande d'asile. Même quand ils y arrivent, on les met dans des centres de rétention en prétextant qu'ils ont déjà déposé leur demande ailleurs et qu'on va essayer de les envoyer vers un autre État européen. Donc, si tu veux, là, on est vraiment, c'est de la caricature de non-droit, quoi.
Voilà. Et c'est ce qui est intéressant dans ton livre, là j'allais prendre quelques petits passages que j'avais relevés, mais il y en a plein d'autres, où tu montres très bien comment, en partant de choses qui sont où on ne s'embarrasse pas de l'égalité, l'illégalité devient embarrassante, et donc on va légaliser des pratiques qui étaient illégales. On va les rendre légales. Et là, donc, par exemple, tu écris, c'est à la page, je l'avais souligné, 79 et 80. Et donc, pour enfermer et maltraiter ces personnes complètement démunies, les dirigeants européens ne s'embarrassent plus des règles du jeu qui entourent, en principe, la production et l'application des règles de droit. Ils nient tout bonnement l'existence des textes trop encombrants et en adoptent d'autres pour couvrir grossièrement les pratiques administratives illégales lorsque leur réalité n'est plus contestable. Et considérant l'immense vulnérabilité de celles-ci et de ceux qu'ils entassent dans les îles grecques, les dirigeants, comme les policiers, sont libres de leurs agissements. Et un petit peu plus loin, tu dis, il est intéressant d'observer comment les règles de droit courent véritablement après les pratiques administratives et policières illégales. Elles n'empêchent rien, ou presque. Au contraire, elles normalisent et légitiment la criminalisation des étrangers jugés trop pauvres.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en plus, il y a un effet pervers avec le droit. C'est-à-dire que dans la conscience... D'ailleurs, quand je suis allée quelquefois présenter le livre dans les librairies, et les gens me disaient « Oui, mais alors le droit, il est là pour protéger. » C'est marrant, cette idée que le droit protège, parce que bon, je ne sais pas si le droit protège. Moi, je n'avais pas forcément cette idée-là. Pour moi, il l'interdit plus qu'il ne protège, mais bref. Bref, mais là, si tu veux, ça a un effet légitimant, puisque finalement, si le droit de la République démocratique française permet d'enfermer un étranger en situation irrégulière, c'est que finalement, ça doit bien être légitime, tu comprends ? Voilà, ça a un effet légitimant, alors que si on regarde les choses froidement, enfermer par an 50 000 personnes juste parce qu'elles n'ont pas la bonne nationalité et parce qu'elles ne sont pas suffisamment riches, ça paraît quand même un peu éloigné des soi-disant valeurs qui sont celles de l'État français. Ça, c'est quelque chose d'important. Et on parle de la France, mais dans le passage, premier passage que tu citais, je parlais des îles grecques qui sont quand même, où ce qui s'y passe, c'est quand même complètement, complètement dingue, parce que sur les îles de Chios et de Lesbos, c'est des sortes de centres de rétention à ciel ouvert, où des milliers de personnes survivent dans des conditions de vie complètement inhumaine, un peu comme ça a été le cas parfois dans le Calaisie. Elles sont comme ça entassées dans des tentes, dans des camps plus ou moins formels, et elles ne peuvent pas sortir des îles grecques parce que sous la pression des États européens, la Grèce les maintient dans des énormes comme ça, zones tampons, zones d'attente. Ouais, c'est soi-disant, même plus, il n'y a même plus l'illusion du droit, là. Et, je crois qu'on est au-delà.
Oui, oui. Et c'est quelque chose que tu Bon, une autre partie que j'avais soulignée, hein. Si la violation flagrante se systématise pour finir par faire trop de remous, les gouvernements font adopter un texte qui légalise les outils forgés par l'administration.
Oui, ça a été le cas pour la rétention, ça a été le cas ensuite pour la zone d'attente, c'est le cas pour ça a été le cas pour les contrôles d'identité, les opérations coup de poing qui étaient menées à Barbès dans les années 60-70 contre les Algériens, toujours complètement illégales, ont été maintenant, grâce aux réquisitions du procureur de la République, les policiers et les policières peuvent contrôler sans avoir besoin de justifier d'un comportement particulier n'importe quelle personne à l'intérieur de certaines zones pendant certains temps. Ça aussi, un jour ou l'autre, à Mayotte maintenant, le régime des contrôles ultra-libéral d'identité est sur toute l'île. Sur toute l'île, les policiers peuvent contrôler n'importe qui, n'importe quand, tout le temps. Et un jour ou l'autre, ça finira par être le régime qui s'applique sur le territoire français sans besoin de réquisition du procureur de la République.
Mayotte, c'est déjà le territoire français.
Oui, mais sur l'ensemble de la territoire métropolitain, oui,
On va dire l'espace colonial. L'espace colonial est un formidable laboratoire.
Oui.
Alors, maintenant, je vois que notre émission tire à sa fin, que les oreilles du front, excellente émission, commencent à s'installer dans le studio. Et donc, j'aurais voulu te poser... J'ai plein de questions à te poser, hein, mais bon, faudra faire d'autres émissions pour continuer à en parler de ce livre, et surtout, de quoi parle ce livre ? Parce que c'est... Parler de quoi parle ce livre ? Carte blanche, l'État contre les étrangers.
Il parle, si tu veux, je trouve. Enfin, moi, j'ai.
Alors, c'est surtout, ouais. ma question était dans la signification du titre. Tu n'es pas obligé de me répondre parce que la signification, on peut la trouver en lisant le livre.
Oui, tout à fait. Carte blanche. J'avais pensé aussi. Il me semble que la nuit où un certain nombre d'Algériens ont été jetés dans la Seine par la police, Papon, qui était à l'époque préfet de police, avait reçu de ses chefs un chèque en blanc. Ouais. Un chèque en blanc, allez-y, faites ce que vous voulez. C'était Emmanuel Blanchard qui racontait ça dans son livre La police française et les Algériens dans les années à Paris. Et ça m'a fait penser à ça. J'ai cherché un titre. Il y a l'idée de carte, il y a l'idée des blancs, parce que c'est quand même une histoire de racisme d'État et de capitalisme. C'est aux confins du capitalisme et du racisme d'État. Et moi, je pense, enfin, surtout la conclusion un peu de pour moi, c'est je me demande comment on va. Je vois pas comment on pourrait réformer l'État, cette machine d'État, pour arriver à autre chose que ce qu'elle produit là. J'ai plutôt l'impression que c'est intimement lié à ça, que c'est attaché un peu à sa structure.
Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Karine.
Merci Yves.
Peut-être un petit mot en 30 secondes, ouais, si tu veux finir, avant qu'on passe à votre agenda.
Allez voir, il y a beaucoup d'autres livres très intéressants sur le site de la Fabrique Édition qui a édité ce livre. Et puis il y a aussi un livre qui vient de sortir à la découverte sur la crise de l'accueil par Claire Rodier et d'autres chercheurs, un livre collectif qui montre finalement qu'il n'y a pas eu de crise migratoire. En fait, ce qu'il y a, c'est une crise de l'accueil organisée, orchestrée par les États et par l'Union européenne.
Okay. Eh bien,
la crise de l'accueil.
Ça fera une prochaine émission, la crise de l'accueil. Et tout de suite, donc, on va passer à notre petit agenda. Hein. Donc, notre agenda.